Radio Libertaire, chronique hebdo, un petit peu de musique, rien ne marche comme d'hab. Radio Libertaire. Radio Libertaire, chronique hebdo dans quelques instants. On a des difficultés de réglage, hein, puisque pas de retour de casque, puisque Fred Maurice est ce matin dans le studio. Donc on va essayer de réaliser cette émission avec les moyens du bord, et donc pas de retour du tout de son. Mais on a encore quelques petits clignotants dans le studio, et on va essayer de faire ça avec les moyens du bord. Alors, on demandera éventuellement aux auditeurs, mais pendant les parties musicales, savoir s'ils nous entendent bien, parce que sans ça, on remettra à une prochaine fois. Donc, l'émission Chronique Hebdo dans d'autres conditions. Donc, quelques petites parties musicales, hein, si vous devez les avoir entendues au début de cette émission. Et puis, on essaie de la réaliser comme on peut. Et donc, dans quelques instants. Radio Libertaire, est avec nous. Voilà, un peu avec une voix, ça tombe bien, puisque si on aborde les questions religieuses, on a l'impression de s'exprimer, enfin j'ai pas tellement l'habitude, dans une église ou une cathédrale. Alors, on va voir, alors ce matin l'émission de Chronique Hebdo, je vais couper ce retour, que j'ai quand même, hein. Voilà. Je l'ai plus. C'est formidable. Donc, vous avez sûrement écouté un bon programme musical avant 10h, hein, sur Radio Libertaire. Un programme musical libertaire et anarchiste. C'est formidable. Alors donc, ce matin, avec pas mal de retard, hein, on essaie de faire de la radio. Ce qui n'est pas facile, parce que vous avez observé que sur Radio Libertaire non plus, il n'y a pas de podcast, ça dure depuis des mois. mais ça peut encore durer des années. Les conditions sont difficiles et essayer de s'exprimer pour dire faire une radio différente, c'est très bien. Dans des conditions particulièrement difficiles, vous le savez, en ce moment, dans ce monde, et donc l'importance de Radio Libertaire est d'avoir aussi les moyens techniques pour pouvoir justement exprimer des thèmes, des sujets, des idées radicalement différentes sur une antenne. Évidemment, vous le savez, donc il faut pouvoir être écouté, entendu, et avoir un minimum de technologie pour pouvoir exercer cet art difficile dont je vous parlerai ce matin. La parole est un sport de combat, hein, vous voyez ça, puisque analogie avec l'art est aussi une pratique et un sport de combat. On évoquera ça ce matin aussi, puisque un zozo a sorti un bouquin qui s'appelle La politique est un sport de combat. Alors il y en a plusieurs de sorties dans la presse plutôt dans l'édition il y a quelques semaines. Ce matin, on vous en a parlé, les informations étaient faites. Fred Maurice, illustrateur, Fred Maurice peintre, Fred Maurice écrivain, Fred Maurice auteur de livres jeunesse, hein, comme on dit, les éditions Livre Jeunesse, est dans le studio de Radio Libertaire pour, on va parler de son actualité. Alors, je vous le rappelle, hein, pour les auditeurs de Radio Libertaire, qu'il illustre le blog de Chronique Hebdo. À ce sujet, donc, vous pouvez aller sur le blog de Chronique Hebdo, voir toutes les illustrations, toutes les informations. Josy s'occupe de ce blog. Et puis aussi, réécouter les émissions de Chronique Hebdo, si vous le souhaitez, et aussi une forme de podcast qui existe sur le blog de Chronique Hebdo. Alors, il faut, c'est les moyens du bord, hein. Chaque émission peut avoir ces enregistrements, une forme de podcast pour les auditeurs qui souhaiteraient, comme cette émission, à réentendre ou l'entendre à d'autres moments, selon les convenances et les pratiques de chacun. Je rappelle, alors, pour Fred Maurice, hein, son ouvrage, il était venu il y a quelques mois, il va nous le dire, pour Un hiver de chien, donc on va l'évoquer, hein, ce roman social, roman politique, Un hiver de chien, et puis aussi pour son dernier ouvrage. Alors là, c'est les éditions Jeunesse, édition Champ d'Orty, et le nom de cet ouvrage, de ce livre, Les sources d'or de la cité fleurie. Alors Fred, on va essayer, l'ouvrage, il est pas sorti, mais c'est aujourd'hui quasiment qu'on va pouvoir le trouver peut-être dans certaines librairies ou pas.
Il est sorti de chez l'imprimeur et il sera diffusé d'ici quelques courtes semaines. Voilà, donc voilà. Et bon, on pourra le trouver chez Publico et puis chez, entre autres, et puis chez tous les meilleurs libraires. Donc c'est une question de plus de semaines que de jours, je pense, mais de courtes semaines. Et puis il y a aussi, bon, j'en profite un petit peu parce que j'ai comme je fais partie des éditions maintenant aussi. Champ d'Orty, j'ai travaillé aussi sur le dernier livre de Champ d'Orty qui s'appelle Un vent de colère, écrit par Grace Belder, et qui lui va sortir à peu près au même moment que le mien.
Oui.
Donc, le support physique du bouquin n'est pas encore là, mais le livre est tout frais sorti de chez l'imprimeur. Voilà.
Alors, ce matin, on va essayer d'aborder des thèmes. On avait évoqué, j'avais discuté avec toi des thèmes autour de l'écologie. Pourquoi l'écologie? Puisque vous savez, c'est toujours d'actualité, plus que jamais, et c'est pas évidemment l'écologie. L'écologie au sens médiatique, hein, mais quelque chose que l'on doit éminemment politique, éminemment social, qui doit être exprimé Alors, il y a plein de, évidemment, plein d'informations. La dernière, en relais, avec l'illustration que tu as faite, que vous pourrez trouver, découvrir sur le blog de Chronique Hebdo, concernant Nicolas Hulot.
Hein. Oui.
Bon,
oui.
Les vacances ou la grande vacance de Monsieur Hulot.
Oui, je me suis inspiré du titre du film de Tati, Les vacances de Monsieur Hulot. Mais là, c'est la grande vacance au sens vrai du terme de vacances. Et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors antenne, et c'était drôle de voir un petit peu l'enthousiasme au moment où Hulot a été a hérité du poste de ministre de l'écologie. Voilà, beaucoup de personnes ont pensé qu'enfin un vrai écologiste était au gouvernement, et voilà, je crois que beaucoup commencent à comprendre que Nicolas Hulot est peut-être un amoureux de la nature, mais pas un écologiste. On sait tous ses liens avec les grandes firmes multinationales dévastatrices. Donc on peut vivre de contradictions dans la vie, mais il y a des contradictions un petit peu quand même compliquées à assumer, je pense. Et puis on se rend compte que Hulot ne sert pas à grand chose, quoi. C'est juste c'est l'image, c'est le produit Hulot, je pense, qui a été mis en avant par ce gouvernement. Et alors il est drôle d'entendre aussi que Hulot, s'il ne fait rien, c'est qu'il aurait les mains liées, qu'il avale des couleuvres. Mais non, je pense qu'il a sa place dans ce gouvernement, car rien du tout d'écologiste. Donc voilà, donc c'est vrai que je l'ai représenté dans un pot de fleurs. Finalement, il est d'un côté décoratif,
oui.
Et puis on voit autour de lui tourner des petites bulles avec tous les toute l'actualité, on va dire, écologiste.
Alors au-delà de l'actualité écologiste, l'actualité politique, hein, l'actualité économique, l'actualité sociale. Bon, le thème du nucléaire, et là, faut le rappeler, l'arrêt qui était peut-être éventuel de 50% d'électricité d'origine nucléaire à l'horizon 2025. À l'horizon 2025, ben là, c'est reporté 2030, 2035. Enfin, c'est une escroquerie, comme d'habitude. Parce que, là aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter les centrales nucléaires. Le démantèlement, comme on dit pour ce petit jeu de mots, tellement dément, les capacités d'arrêt, pour le moment, les tentatives qui ont été faites à une toute petite centrale nucléaire en Bretagne, Brennilis, ce n'est pas terminé. Et en ce qui concerne le démantèlement aussi d'une centrale nucléaire en Italie, gros problème, grosse difficulté. Et évoquer, c'est EDF qui raconte ça, ou Areva, que pour le démantèlement, c'est plus de 30 ans. Et alors, rappelez que la semaine dernière, le forum, c'était Forum social antinucléaire dont on a évoqué à Paris, dont on a parlé la semaine dernière, là aussi, arrêter les centrales nucléaires, mais comment ? Et les démanteler comment ? Les découper en petits morceaux ? Les faire voyager sur les routes de France ? C'est-à-dire que les questions voient bien que c'est une impasse, mais une impasse, au-delà de reprendre l'expression, suicidaire, une impasse criminelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas arrêter les centrales nucléaires, et ça tombe bien, puisqu'ils veulent, ne sachant pas les arrêter, les prolonger, avec toute la dangerosité que ça peut avoir, puisque, faut le rappeler, 52 réacteurs, hein. Sur le territoire, une spécificité française. Hein, donc, alors, on évoquait Hulot avec le nucléaire, mais Fred, tu as évoqué donc les lignes à grande vitesse. Hein, on en reparlait. Notre-Dame-des-Landes, là c'est l'histoire de l'aéronautique, hein, aussi, au plus large qu'un simple aéroport. Les OGM, hein, puisque là, on l'a évoqué avec Monsanto. Et puis c'est l'actualité, puisque avec les pesticides, donc l'Europe, avec le glyphosate, hein, puisque aujourd'hui ou hier, il y a eu quelques manifestations de gens qui ont d'enfants qu'on l'a fait pisser en Belgique, je crois, qu'on l'a fait pisser dans des petits bocaux pour faire les analyses par l'inquiétude qu'ils pouvaient avoir, hein, de même en mangeant, comme une personne s'exprimait, avec des produits soi-disant, enfin, qu'elle souhaitait non traités, pisser quand même un petit peu de pesticides, glyphosate, cancérigène, les conséquences que ça peut avoir. Et puis, évidemment, on rejoignait, tu retournais dans ton dessin, l'illustration avec bure.
Ouais,
là aussi, tout ce que ça peut impliquer.
Ouais,
alors,
ouais.
Fred, alors, sur ces thèmes, tu avais vu peut-être dans la décroissance, non une,
non, c'est plutôt sur le transhumanisme, l'article dont
oui,
je parlais sur la décroissance. Mais c'est vrai qu'il y a un petit article que j'ai pas eu le temps de lire complètement de Stéphane Lhomme,
ouais.
dont on a parlé tout à l'heure aussi.
Et ouais,
justement,
ouais.
À propos de la cuve du réacteur EPR à Flamanville, qui présente de grosses anomalies. Et je lis juste le début de l'article. Selon l'autorité de sûreté nucléaire, alors celle-ci valide tout de même la construction de l'EPR pour le plus grand bonheur de l'industrie atomique. Bien que, alors c'est assez étonnant parce que donc l'ASN a dénoté énormément de failles, d'anomalies, mais ils ont validé malgré tout la construction de l'EPR. Et donc il y a tout un article que j'ai pas eu le temps de lire encore. Et voilà. Mais pour Bure, oui, tu évoquais Bure avant. Et c'est vrai qu'on en parle assez peu médiatiquement.
Oui, cet été, il s'est passé des événements assez graves.
C'est ça. Et
nous repris dans les médias, évidemment. On se doute.
Et sur place, c'est vrai que les gens vivent. Il y a une présence policière incroyable. Il y a une forme d'invasion. Enfin, pas d'invasion, mais d'occupation.
D'occupation.
Et on en parle assez peu de ce mouvement de résistance à Bure.
Oui, c'est une occupation militaire, faut le rappeler quand même, une guerre intérieure aussi, presque ça, de la manière que, enfin c'est très proche de ça, puisque bon, c'est la gendarmerie, hein, donc il faut voir que c'est pas un corps de police, mais c'est un corps militaire. Pour là-bas, et de la même manière avec tout ce qui s'est passé donc à Notre-Dame-des-Landes. Hein, donc là aussi, avec, on attend, puisque ça devrait, les décisions peut-être prises à partir du mois de décembre. Ouais, tu voulais dire pour Bure, effectivement, depuis des dizaines d'années, un centre d'enfouissement. Et les gens, la population de toute cette région, et en particulier de Bure, le refusent.
Mais je pensais justement que les autorités ne s'attendaient pas à une telle réaction, comme c'est dans un endroit vraiment assez isolé, très peuplé. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une telle réaction, que ça allait passer comme une lettre à la poste. Et puis finalement, c'est des gens qui, beaucoup, je pense, n'étaient pas forcément militants à la base, mais qui se sont commencé à s'organiser. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup moins médiatisé, je trouve, que Notre-Dame-des-Landes, qui est un petit peu symbolique. Mais je pense, oui, que sur place, pour la population, ça doit être une atmosphère assez particulière. Et je sais que c'est un projet qui était en plan depuis très 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 longtemps, parce qu'il va bien falloir en faire quelque chose de ces déchets. Donc la solution d'enfouir ça dans un endroit très peu peuplé où la résistance serait...
Oui, je le disais, donc impasse absolue pour le nucléaire. Alors, c'est récent, donc, Observatoire du nucléaire, des informations qui ont été données, on le rappelle, par Stéphane Lhomme, en particulier, aussi, donc, puisqu'on évoquait Nicolas Hulot, donc, rappeler que c'est le parrain du petit Nicolas. C'est quand même EDF, hein, depuis plus de 25 ans. Et la fondation, c'est toujours, ils ont tous des fondations, hein, pour que ça tienne. La fondation Nicolas Hulot, ils ont re-signé une convention jusqu'en 2019.
Oui, donc,
il est complètement réattaché, relié au PDG d'EDF, comme on dit. Parrain de la fondation Nicolas Hulot, avec une poignée de main très franche, évidemment, très amicale, entre ce PDG, donc, on se souvient, alors je ne sais plus si c'est celui-là actuellement, qui s'appelle Lévy, et qui était en accord, principal parrain, hein, donc, le PDG d'EDF, de la fondation Nicolas Hulot, Et on se pose la question, est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Et peut-il, en tant que ministre de l'énergie, refuser quelque chose à M. Lévy? Hein, c'est, alors, première chose, donc on voit aussi des photos, les photos souvenirs, hein, pour l'histoire. Amis d'EDF et des centrales nucléaires, M. Hulot, et soulignant dans un article qu'il était la caution ridicule de ce gouvernement, en particulier rappeler M. Macron, hein, donc productiviste, mm-hmm. nucléariste, et rappeler aussi Édouard Philippe, ancien donc responsable d'Areva. Hein, donc une belle brochette. Et bah, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire que celui qui s'y connaît le mieux dans la crapulerie, ou celui qui est le plus impliqué, comme on voit pour M. Hulot, dans un affichage, par un affichage publicitaire, un affichage de communicant, hein, donc faire illusion, on le sait, hein, il sert au-delà de caution, mais donner l'illusion qu'il se passe quelque chose, hein, puisque depuis plusieurs années, souviens-toi, il y avait eu l'appel au moment de, on revient, l'élection, les élections précédentes, mais même pas hollandais, au Sarkodrome, à cette époque, l'appel de Hulot. Et elle a encore une fois des signatures, des centaines de milliers de personnes impliquées, pour un résultat zéro. Ouais. Mais l'essentiel, faut faire de l'affichage, faut montrer qu'il se passe quelque chose. Et c'est la politique, évidemment, qui a lieu en ce moment avec le macronisme. Alors, je te disais, oui, ces questions écologiques sont plus que des questions environnementales, comme les couillons le rappellent, hein, quand on parle de ministre de l'environnement, enfin, ça a un peu changé, environné dans, par quoi, environné par qui, là aussi. Et donc, je t'avais dit, j'avais évoqué un ouvrage donc qui est sorti et que je vais retrouver voilà, et qui est sorti, qui s'appelle cet ouvrage Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour, de Valérie Chancy-Gault, Actes Sud, Monde Sauvage. Bon, Actes Sud n'a pas de relation particulière avec la ministre de la Culture, j'en suis certain. Et donc, pour cet ouvrage, l'intérêt que l'on voulait montrer, que cet auteur, donc Valérie Chancy-Gault, voulait montrer, c'est que on met toujours de côté un peu la question écologique, et elle voulait la rapporter à une question éminemment politique et éminemment sociale. Elle souligne qu'il est devenu absolument crucial de rétablir le lien non pas avec la nature, mais avec les questions politiques, ce qui revient à souligner à quel point la nature n'est pas une catégorie qui permettrait de mouliner de l'engagement politique. L'auteur veut comprendre pourquoi la question sociale ne s'est pas confondue avec celle de l'injustice faite aux vivants, et non si les Français aiment ou n'aiment pas la nature, et d'ajouter donc à cette question ce que j'évoquais avec toi, que la question du désamour, en particulier de la société française, hein, avec bien au-delà, bon, pour l'époque, les questions de nature ou les questions écologique, donc de mettre ce lien en soulignant, hein, que beaucoup de Français, elle évoque un petit ouvrage en disant les petits oiseaux, l'ornithologie, c'est une question importante, et elle faisait la liste de nombreuses revues comme en Allemagne, pour pas aller très loin, en Grande-Bretagne, des dizaines de revues sur l'ornithologie. Il y avait eu un essai en France qui s'appelait de cette revue « L'ami des petits ». Alors c'était des petits oiseaux, et elle a disparu. Donc, alors sur ce point important, elle voulait dire que ce désamour, en rapport avec les paysages, en rapport avec l'attention faite aux animaux, en rapport aussi avec les géographes, en soulignant quand même un géographe important, évidemment, elle ne pouvait pas ne pas le citer, Élisée Reclus. Donc, elle montre bien dans cet ouvrage que bien au-delà, ce qu'elle dit, la France intemporelle, qui aurait depuis les grottes de Lascaux jusqu'aux dernières élections, la même méfiance envers les animaux et la même vision paysagère de la nature. Donc, ce qui fait que dans tout un tas de domaines, enfin, on en parlait ce matin, hein, si on fait des comparaisons, de soucis, si on regardait par exemple le nombre de chasseurs, on en parlait, c'est une spécificité française, hein, puisqu'on en est presque à 1,3 million, 1,4 million,
hein,
des chiffres à peu près comme ça.
Ouais.
Certains disaient autant de footballeurs, hein, de football dans un club sportif. Ça va ensemble puisque ce sont quand même, on peut dire, des écologistes, et dans la mesure où ils aiment courir sur une pelouse. Hein, donc là aussi, on voit l'attrait qui existe pour certains. Alors la question des animaux, très importante, et là aussi on peut voir, hein, puisque la quantité de les cultures bio, l'agriculture bio, beaucoup plus développée, hein, puisqu'en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays, hein, pour rester dans le système capitaliste, hein, sans se faire d'illusions. Mais à ce niveau-là, on voit les réductions. Alors le nombre de gens qui s'orienterait avec une autre alimentation, puisque manger, on pourrait dire, c'est faire de la politique, hein, au-delà d'une émission qui s'appelle manger, c'est voter, et l'importance d'aller vers le respect au-delà des animaux, quand on parle à l'alimentation végétarienne, ou alimentation, ou aussi, hein, puisqu'on l'évoque, apparaît dans des restaurants, des plats véganes, hein, ouais, que l'on propose. Donc, Fred, alors, sur ces questions, voilà, je voulais essayer d'en parler un petit peu avec toi, hein, aborder ces thèmes, je te dis, bien au-delà, qui sont reliés à la question éminemment politique, à la question sociale, et qu'on l'on met un petit peu de côté, où on essaierait de soigner la planète, hein, puisque peut-être que tu veux dire quelques mots sur la COP 23.
On ne sait plus la combien c'est, ouais, c'est la 23.
Il y a eu la 22, là, les flics, et la 21. Et la 21, donc, on sait qui était avec M. Fabius.
La 21 avait un côté un petit peu... Enfin, ouais. Au-delà du drame quand même qu'il y a derrière, toutes les conséquences, il y avait ce côté vraiment qui était risible, enfin, de Fabius. J'ai toujours l'image de avec son petit marteau vert et puis ses larmes. C'est plus des larmes de crocodile, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est comme animal qui pleure comme ça. Et on a eu l'impression à ce moment-là qu'un grand changement, qu'un grand virage était pris, qu'enfin peut-être que écologie et capitalisme ne seraient plus conciliables. Et puis on est combien de 2 ans, 3 ans après, je ne sais pas,
oui,
si c'est tous les ans.
Oui, c'est ça. Oui. On, ouais, voilà. Là, c'est
finalement, on s'est rendu compte que l'état de la planète s'est dégradé depuis 2 ans, que les 2 degrés à ne pas dépasser. Je me souviens d'un article que j'avais lu il y a quelques années. C'était 2 chercheurs suisses,
ouais,
qui avaient rendu un rapport justement sur l'état de réchauffement de la planète. Mais ça avait été assez confidentiel. Et selon eux, les 2 degrés c'était acquis. Je veux dire, on pouvait du jour au lendemain arrêter toutes les usines, faire stopper toutes les voitures.
Oui.
Les 2 degrés, c'était acquis. Et pour eux, il était plutôt question de lutter pour ne pas dépasser les 3, voire 4, et éventuellement 5 degrés. Donc on est au-delà des chiffres que voudraient respecter les engagements de la COP 23. Mais tu parlais de productivisme tout à l'heure à propos de Macron. On est toujours dans le productivisme. Pour consumer, il faut produire. Donc on est toujours dans
plus
le
que jamais
final.
Plus
et,
que
et voilà, tant qu'on sort pas du capitalisme et du productivisme, le productivisme n'a pas toujours été capitaliste. Le soviétique était productiviste aussi. Mais tant qu'on n'en sort pas, il n'y a pas de solution. Donc c'est drôle que ce soit les gens qui sont les plus en avant dans la propagande capitaliste et qui l'appliquent chaque jour, vouloir nous faire croire qu'ils vont proposer des solutions. Et là, j'avais ramené un article, c'est pareil, j'ai pas encore eu le temps de le lire complètement, qui est paru dans le Sud-Ouest à propos de la montée des eaux du côté des Fidji, des îles là-bas, du côté de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, et qu'on prévoit aussi un nombre de réfugiés climatiques importants dans cette zone dont on ne parle pas forcément, jusqu'à plus d'un million, je crois, de personnes, que ça a déjà commencé. Donc il y a tout un article qui est paru dans le Sud-Ouest, là, il y a quelques jours. Et donc voilà, c'est des régions du monde qui sont assez peu peuplées. Donc forcément, on n'en parle pas énormément, parce qu'il y a 1 300 000 personnes sur... C'est des territoires énormes. Mais ils sont touchés les premiers. Donc là, je ne sais pas, la COP 23, c'est en Allemagne, je crois.
Que c'est en Allemagne.
Ouais.
Et c'est les intervenants principaux, c'est les îles Fidji.
C'est ça.
Alors on se fout de la gueule du monde, évidemment.
Ceux
qui sont le plus touchés, affectés, les capitalistes, ils se disent, on va leur donner la présidence de la COP 23.
Voilà,
c'est formidable. Tous les gens vont dire, c'est merveilleux, ils viennent s'exprimer.
Voilà.
Mais comme d'hab, depuis que ça existe, les COP, comme j'ai souvent dit, ça veut dire les flics. Ça veut dire les flics. Et donc, ce n'est que, évidemment, qu'une escroquerie, que des effets d'annonce, puisque l'on le voit depuis que ça existe, que tout, comme on dit, les clignotants, plus que jamais... la montée des eaux, l'augmentation des degrés de la température de la planète ne fait qu'augmenter. Et là aussi, habitude prise, comme on dit, comme on bourre le crâne de l'ensemble des individus par les médias, c'est que si l'on écoute des radios ou des télévisions, on fait quelques émissions, on voit ça, sur le réchauffement, comment on invite Hervé Kempf, par exemple, comme dans une émission sur LCP dernièrement. Il vient expliquer ce qu'il fait dans son site reporter. Il dit, comme tu viens de dire, que c'est trop tard, presque, tu vois, les annonces qui sont faites. Alors, les gens sont là à dire, non, il y a quand même des mesures, tout ça. On en parle pendant une heure. Et tout de suite après, bingo, une information, la croissance repart. Et tout le monde saute au plafond. Et donc, on se dit vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire devant de telles conneries, de telles inepties? Et là, c'est ce que je te dis, c'est une sorte de découpage. Il y a le découpage Hulot. Lui vient nous en parler, de faire son petit numéro, dire quelques déclarations, et puis après, il y a les autres, faut être sérieux, Monsieur le maire, l'économie, en nous disant, cette année, ça va, et l'année prochaine, ça va être encore mieux, ça repart, on va être à 1,5, à 2, et si un jour on arrive à 3, la question, encore une fois, de l'emploi sera réglée. Donc ça dure depuis des dizaines d'années, et comme d'habitude, donc ça ne fait que s'aggraver. Ça ne fait que s'aggraver. Alors, Fred, sur ce point, de l'écologie, toi, tu voulais évoquer, non? Je pense, des aspects. Je reviendrai quand même sur l'amour des Français, pour la nature. Et là, on voit évidemment qu'ils s'en foutent un peu, puisque les paysages massacrés, aussi, on peut le dire, pour les centrales nucléaires, s'il y a eu des actions, ça a quand même été assez réduit, ça n'engageait pas les foules, dans la mesure aussi où que les médias, comme tu le sais, c'est du bourrage de crâne, de la propagande en continu. Et là, j'évoquerai peut-être après, si tu peux peut-être te parler un petit peu de Bordeaux, ce que tu as vu. J'évoquerai un truc, en fait, qui est très significatif de cette France aristocratique, de cette morgue française à tous les niveaux, hein, puisque je vous le rappelle quand même que le Parti communiste français, ça vient de la Révolution française, a toujours défendu la chasse, hein, puisque les aristos chassent, les aristos tuent. Eh bien, nous aussi, on a le droit, et on a le droit aussi, tu le sais bien, hein, pour la CGT, de fabriquer des armes, hein, puisque on est syndiqué. L'essentiel, c'est d'être bien rémunéré, et peut-être qu'on invoquera aussi pièces et manœuvres. Alors, un sujet, peut-être qui mettra un petit peu d'ambiance, les dernières chasses, une dernière chasse à cour, hein, qui a eu lieu la semaine dernière, et je voulais aborder un peu le sujet, quand même que rappeler qu'il y aurait 400 équipages en France, ouais, de chasse à cour et 18 000 chasses par an.
Alors je me souviens moi d'un reportage dans l'émission de Daniel Mermet sur la chasse à cour justement. Il s'est intéressé au sujet, et parce qu'on pourrait penser que c'est une certaine classe sociale qui la pratique, et il s'est rendu compte qu'en fait que pas forcément, il y a des classes moyennes, bon, pas forcément des prolos, mais des classes moyennes qui ont envie de découvrir ça. Alors quand on sait que c'est une maltraitance animale pour les chevaux, pour les chiens, sans parler des proies bien sûr, et moi en fait ça m'a bon, comme je suis en Gironde, et c'est vrai que je fais souvent du vélo dans la forêt landaise en dessous d'Arcachon, et il m'est arrivé il y a quelque temps de à un endroit où j'avais l'habitude de passer, de voir un tas de camionnettes, un endroit où d'habitude il n'y a personne. Et je me suis approché, et en fait j'ai découvert que c'était le départ de la chasse à cour. Il y avait les gens qui jouaient de la corne, je ne sais pas comment on appelle ça, avec le costume, quoi. Et il y avait, je ne sais pas, une dizaine de camionnettes avec les chevaux. Et ça m'est arrivé deux ou trois fois de tomber dessus. Donc ça se pratique toujours. Et on est un des derniers pays, entre guillemets, civilisés, mais occidentaux.
Occidentaux, puisque d'autres pays, d'autres pratiques.
Ça se pratique toujours. On sait, pour les animaux, enfin, les chevaux, c'est assez terrible. Bon, moi, j'aime aucune forme de chasse, mais je trouve que c'est la plus cruelle, parce qu'il y a quand même on fait souffrir l'animal, quoi, vraiment, jusqu'au bout, l'animal qui est traqué. Et moi, je me pose toujours la question du plaisir qu'on peut trouver à tuer, à faire souffrir un animal. Mais, alors, la chasse classique aussi, ce qui est assez drôle, c'est pas drôle, mais les chasseurs, en fait, je vais pas dire qu'ils font de l'élevage, mais les animaux qu'ils chassent, quelque part sont apprivoisés, parce qu'ils ont l'habitude de les plus ou moins de les nourrir. Dernièrement, je suis tombé sur un endroit où il y avait un tas de feuilles et un tas de glands qui étaient déposés là, et ça, c'est pas tombé du ciel. Je pense que c'est les chasseurs qui les déposent là pour attirer les sangliers. Donc
ont
l'habitude de venir dans les endroits où ils sont nourris. Et il y a quelque temps, je suis tombé sur des faisans qui m'avaient une vingtaine devant moi et qui ne sauvaient pas. Moi, j'approchais, j'étais en vélo. Et logiquement, l'animal a peur et se sauve. Et en fait, je pense que c'est des animaux d'élevage. Ils sont portés comme des poules. C'est-à-dire que si t'es chasseur, même si t'es mauvais chasseur, tu peux faire un carton. C'est un petit peu la galinette cendrée des inconnus. On est vraiment dans le... C'était à peine caricature.
Alors, j'évoquais tout à l'heure, parce que tu évoques ça, que tu as vu pour des animaux domestiqués, quasiment. C'est aussi la petite balade, enfin, on te sait, les cirques, hein, pour là aussi, les cirques des pays du Nord sans animaux. Donc là aussi, c'est un peu une spécificité française. Il n'y a pas que là, hein, mais et les zoos. Donc la visite pour apprendre aux enfants que les animaux sont en prison. C'est-à-dire pour leur apprendre la prison, c'est la meilleure école, de leur faire visiter des zoos. Alors il y a aussi ça, le fric qui peut être fait sur des pseudo-réserves, avec toujours une finalité de servir de conservatoire pour les animaux, comme on l'entend que les chasseurs sont les meilleurs protecteurs de la nature, ça aussi, comme les militaires adorent l'espèce humaine, le genre humain, mais à condition qu'ils soient désingués. Alors je te dis ça, c'est très récent. Alors là aussi, les titres à la con. La SPA porte plainte, enfin, donc on sait très bien l'utilité, après l'abattage d'un cerf dans un jardin privé dans l'Oise.
Oui.
Alors l'image a fait le tour, c'était le 3 novembre, des réseaux sociaux ou asociaux, comme on veut, et des médias. On y voit un homme enjamber le portail d'une propriété privée, un jardin, et de donner des coups de fouet à un cerf épuisé, réfugié, un cerf épuisé, mais un cerf aussi. Hein. C'est-à-dire que quand le cerf, il n'y est pas, on met un esclave. Hein, tu sais, c'est les chasses du comte Zaroff, hein, c'est-à-dire la chasse à l'homme. C'est selon ce qu'on a, hein, comme tu parlais, t'évoquais des proies. Réfugié dans un jardin, il finira par l'achever de deux tirs de fusil avant que les chasseurs viennent évacuer la dépouille, parce que l'animal devenait agressif. Voilà. Alors j'adore. Vous voyez. Alors ça aussi, l'affaire. Alors on retrouve donc des gens qui ont manifesté réclamant l'abolition de la chasse à courre, spécificité française. Michel et Monique Pinson-Charlot, ils ont commis un petit ouvrage sur la chasse à courre, qui est malheureusement, comme on dit, épuisé. Mais on peut peut-être le trouver en fouillant, hein, en cherchant dans certaines librairies. Et on avait évoqué une fois, ils étaient venus dans cette émission, de faire une émission autour de cette spécialité bien française. Alors, l'Allemagne, on le rappelle, hein, je te le dis, le Royaume-Uni et la Belgique, ça n'existe pas. Pétition, comme d'habitude, ce pays pétitionnaire, hein, des signatures, mais ça ne change rien. Mais les gens, bon, quand ils ont, tu sais, c'est sur Internet aussi, de nombreuses pétitions, vous avez à la signer, et j'ai fait un acte politique, et après, tout va bien. Alors, la société de Vénerie, hein, ça s'appelle comme ça, poursuivie pour sévices graves et actes de cruauté. Alors, le zigoto, maître d'équipage, Alain Drac, fils de la baronne Monique de Rothschild. On n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti. Ils sont là. Et les profs et les instituteurs, comme je dis, souvent les pinglent un peu avec les programmes, le rap aux enfants. Bon, qu'il y a eu la Révolution française. Alors, autant de rescapés, hein, c'est étonnant. Et la société de Vénerie qui encadre cette opération, alors voilà. Combien de temps ça mettra par rapport à la. Le fait de passer en justice, on sait très bien. Alors, il y a un des mecs aussi, qui s'occupe de cette société de Vénerie, Pierre de Bois-Guibert. Hein, ah. De Bois-Guibert. Donc, les aristos sont là. Alors, là encore, il y a une sanction. Je ne sais pas, je crois qu'ils auront une interdiction de chasser pendant un mois. Ah. Alors voilà.
C'est dur.
Et donc je l'ai dit au début de cette émission, donc le malheureux et les gens de ce petite commune de Loire se plaignent. Les veneurs, ils les appellent, qui nous intimident à coups de fouet, tu vois, coups de fouet, ou qui nous poussent à nous mettre sur le bas-côté lorsqu'ils passent à cheval. Témoigne donc un des mecs du collectif pour abolir la chasse à courre avec le mépris. Ouais. Hein, c'est exactement ce qu'on avait fait pour les premiers cordées, une illustration d'un de tes dessins. On vous pisse dessus, hein, quand ce n'est pas le contraire. Et là aussi, ça a été fait, la sociologie des riches, enfin je dis des grands voleurs, des criminels, c'est-à-dire le mépris absolu des autres, hein, de considérer que ça ne compte pas, et que leur pratique, ils habitent, c'est à eux. C'est ça de comprendre que ça leur appartient, donc on fait ce qu'on veut, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, et de toute façon, l'appareil de justice, c'est la justice bourgeoise, donc elle nous donnera raison. Encore une fois, alors c'est des effets d'annonce, on en parle, les gens comme là, sur un moment, en disant c'est dégueulasse, vraiment c'est ignoble, tout ça. Et puis, la semaine d'après, c'est un autre événement, on n'en parle plus et ça continue. Et comme ça, comme je te dis, le nombre de chasseurs. Donc, voir le désamour, comme je dis quelquefois, le nombre de centrales, de réacteurs dans ce pays, les Français le méritent bien. Peut-être le méritent bien, avec évidemment, pour tous ceux qui se battent, les conséquences que ça pourrait avoir d'un accident qui nous pend au nez. Hein. Ça, enfin, il y a énormément de tu le sais, le nombre de centrales, d'incidents extrêmement graves, là aussi, et de voir comment ça pourrait se comporter dans ce pays, compte tenu de tous les oiseaux qui sont là, hein, sans avoir justement une sensibilité ou une perception de tous ces dangers. Parce que eux, ils sont dans leur monde, hein. C'est des mondes séparés. Là encore, une fois, comme le chasseur qui exprime sa toute puissance, hein, sur l'animal. Et puis après, alors là, c'est un autre aspect, puisque peut-être Fred en parlait un petit peu, avec l'élevage, et puis l'élevage industriel, les conditions des abattoirs, et rappeler que c'est les gens de l'association L214 qui passent devant la justice bourgeoise et qui sont sanctionnés parce qu'ils ont osé filmer. C'est interdit. Le droit vous empêche de filmer de ce qui se passe dans un abattoir. Hein.
Et là, il y a un projet de... Parce qu'il y avait la ferme des 1000 vaches. Ouais. Et là, je crois qu'il y a un projet de ferme des 4000 vaches. Je ne sais plus dans quel coin de la France. Donc, je ne sais pas jusqu'où la démesure peut aller. Ouais. Et... j'en parlerai samedi, là, parce que je suis invité samedi encore dans les studios pour parler de Champ d'Ortie. Mais il y a un livre, justement, jeunesse, qui est sorti il y a un an et demi à peu près, de Michel Bonnefoy, qui s'appelle Chez Poulardon. C'est pour les plus jeunes, et qui évoque justement l'élevage industriel des poules. Alors il y a quand même un mouvement qui est enclenché, parce que je ne sais pas si c'est encore cette association ou d'autres qui ont fait quand même pression sur les grandes surfaces, afin qu'elles ne proposent plus d'œufs. De poules élevées en batterie. Et il y a un certain nombre de grandes surfaces qui se sont engagées. Alors, est-ce qu'on peut leur faire confiance totalement, mais à plus ou moins court terme, à arrêter de proposer dans leur rayon les. On peut reconnaître sur la coquille des œufs, il y a des chiffres, on peut savoir d'où proviennent, dans quelles conditions ont été élevées les poules. Et donc, je crois qu'il y a Monoprix, il y a Lidl, en fait, il y a, et je pense que les autres magasins, il y a le Système U aussi qui s'y met, qui vont se sentir un petit peu obligés de suivre le mouvement, quoi. Et donc, c'est grâce à des associations comme ça que les choses bougent un petit peu. Mais c'est vrai que quand on n'est pas informé, moi, c'est une amie qui m'avait justement appris ça, le chiffre sur les coquilles. Quand on ne sait pas, on voit au moins cher, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Et. Quand on connaît les conditions d'élevage, après c'est vrai que ça peut un petit peu couper l'appétit. Alors après, toutes les conditions ne sont pas extraordinaires, hein. Rien ne vaudra des poules en liberté. Donc voilà, c'est vrai que ces associations, mais malgré tout, bien qu'ils fassent avancer les choses, ils se retrouvent quand même devant les tribunaux.
Alors, et la macronitude, hein, tu le sais peut-être, c'est-à-dire qu'ils retirent 40% de subventions aux associations pour leur faire fermer leur gueule. Voilà, alors que ce soit que choisir, hein, avec ce que l'on disait, donc les œufs, on en parlait au Fipronil. Là aussi, le boulot qui est fait par des dizaines d'associations, hein, sur la consommation, des lanceurs d'alerte, hein, tout ça, eh bien, ça vient de se faire et retire la bagatelle de 3,5 millions d'euros en 2018. Comme ça, vous fermerez bien vos gueules. Voilà le Macron, hein, comme on l'appelle, la macronite, le condensé entre le Sarkoland, hein, c'était donc la même chose, le Hollandais, et puis la boutique Sarko. Et puis avant, hein, voilà. Mais donc un affichage évidemment différent, hein, c'est le vieux monde, celui d'avant.
Parce que dernièrement on est le retour de Strauss-Kahn. Où il y a le hashtag balance ton porc, Strauss-Kahn est apparu.
Heureux que le Parti Socialiste soit crevé. Soit crevé. Nous aussi en fait, on est heureux.
Ce qui est assez drôle, c'est que ce que les médias ont essayé avant 2012 avec eux, parce que c'est Strauss-Kahn le candidat des médias à l'époque.
Oui, bien sûr.
Il était un petit peu trop porté sur la braguette, donc ça. Et Macron, en fait, c'est Strauss-Kahn. Mais en plus jeune, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose.
La même chose. Donc ils ont refait en 2017 ce qu'ils avaient essayé de faire avant. Sauf que tout a capoté, donc c'est Hollande, concours de circonstances, qui s'est retrouvé Et donc c'est pour ça que je crois que Strauss-Kahn évoquait Macron, mais c'est exactement le...
Alors tu me dis ça, bah oui, on pense à Macron, peut-être qu'il lancerait une plainte contre Brigitte pour harcèlement sur mineurs. C'est possible, ouais, ça peut se produire, on ne sait pas, ouais, ça peut arriver. Ouais, ouais, alors comme tu évoquais Strauss-Kahn, le temps est venu, a-t-il déclaré une conférence, ouais. Il fait des conférences à Marrakech, dans des harems, sûrement ouais, là-bas. Ouais, ouais. Le temps est venu pour le PS de disparaître.
Mais je crois qu'il a disparu depuis longtemps, ouais. De toute façon. Enfin, le non-socialisme avec eux, il y a longtemps qu'il a disparu. Weiss l'avait dit il y a quelque temps, qu'il voulait changer le nom, mais ça fait longtemps qu'il est mort.
Que des appellations mensongères, hein, toutes les boutiques politiciennes. Alors, je vais terminer peut-être de dire ça, donc rappeler l'ouvrage... Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour, Valérie Chansigo, Acte Sud, Monde sauvage. Alors ce qu'elle dit aussi, je pense c'est important, ça, terminer peut-être là-dessus, enfin pour la première partie de l'émission, partie musicale, vous entendrez, vous nous direz, si vous nous appelez, si vous avez bien pu entendre certains de nos propos.
Pour nous.
Valérie Chansigo s'étonne en effet que les attachements politiques les plus forts, par exemple le goût de la liberté, alors on ne sait pas là-dessus, en tout cas pour les libertaires, c'est une évidence, quelle liberté évidemment, ne soient jamais parvenus à entrer en résonance, elle dit, c'est très important, la liberté des vivants. Vous prétendez être libre et partout les animaux sont dans les chaînes. Vous prétendez être libre et partout les animaux sont dans les chaînes. Je pense que les anarchistes doivent s'intéresser, revenir évidemment à Élisée Reclus bien avant, à cette question-là qui, pour certains, est quand même une question un peu mise de côté, accessoire, puisqu'on débat, ils n'ont pas les mêmes droits, c'est pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes sensibilités, ils n'ont pas une conscience politique, c'est vrai qu'ils ne votent pas, ils n'ont pas de rite religieux, enfin quoi que... Et cette question au sens large est évidemment éminemment importante et peut-être l'explication, une des explications, de voir... ce dérèglement un petit peu partout, enfin quand on parle de dérèglement climatique, la mer qui peut se vider dans 20 ans, qui n'aurait plus de poissons, enfin tout ça, et cette question-là, elle dit, l'ensemble, alors on pourrait dire bien au-delà, hein, pour les plantes, la nature dans son ensemble et dans les chaînes, la nature est dans les chaînes, et comme nous avons partie de la nature, eh ben nous aussi. Alors de beugler, oui je suis libre, on est des êtres libres, vous le savez, eh bien pas du tout quand on prend un de ces aspects-là et qu'on regarde la question, cette question-là un peu plus au-delà, un peu plus largement, eh bien on s'aperçoit qu'on est dans les chaînes et que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, aimer la liberté, mais évidemment... Tu sais bien, en relisant Orwell ou d'autres auteurs, avec ce fameux slogan, l'esclavage, c'est la liberté, et les sociétés, les sociétés modernes, ce que l'on peut observer, c'est bien plus pratique, parce que quand on a, ça c'est comme chez les militaires, quand on a des chefs, eh bien, on a cette faculté de ne plus avoir à penser et qu'à obéir. Oui. Et un peu, c'est l'évolution des sociétés merdonnes, hein, obéissons. et c'est ce qu'on essayait, Fred Maurice, d'évoquer un petit peu, en allant bien au-delà de la question dite écologique. Alors, la deuxième partie de Chronique Hebdo, ben, on va aborder à l'actualité, dans l'actualité, revenir sur ton ouvrage, hein, Un hiver de chien. Aussi le dernier dont on a évoqué de voir un peu et rappeler aussi peut-être aussi celle-là, enfin cette question que tu seras ou pourrez, si vous avez eu des difficultés à entendre cette émission, eh bien en espérant que ça marche mieux dans l'émission samedi prochain.
Oui, hein, samedi qui arrive, Chronique Rebelle,
ouais.
Avec Neil Jobard, donc pour parler des éditions Champ d'Orty. Donc comme mon dernier ouvrage est paru chez Champ d'Orty. Voilà, de toutes les parutions récentes, il y a quelques celles qui datent de quelques mois, et puis celles à venir aussi. Donc voilà, à partir de 13h30 samedi.
Quelques parties musicales, vous êtes sur Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, jusqu'à midi. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.